journal des sports et on commence bien avec du football. Cette nouvelle qui est tombée il y a juste quelques heures, les clubs du Paris FC et de l'Olympique Lyonnais, tous les deux disqualifiés de la Coupe de France. Il y avait eu des heurts entre supporters lors de la première mi-temps de ce tour de Coupe de France. Le match avait dû être interrompu à la mi-temps. Et bien, le coup près est tombé. Les deux clubs sont tout simplement éliminé, Christophe Jousset.
Les deux clubs se renvoyaient la balle. La Fédération française a tranché. Les deux sont fautifs. Aucun ne jouera les 16e de finale de la Coupe de France. C'est l'Olympique Lyonnais qui est le plus lourdement sanctionné. Déjà impliqué dans la soirée violente du 21 novembre qui avait vu tomber sur la pelouse le Marseillais Dimitri Payet, touché par une bouteille d'eau, le club de Jean-Michel Aulas paye pour le comportement de ses ultras qui auraient cherché à en découdre dès leur arrivée en gare à Paris le 17 décembre. Ce soir-là, dans les tribune du stade Charletti aux portes de la capitale, des jets de fumigène suivis de bagarres et de mouvements de foule avaient provoqué l'arrêt définitif de la rencontre à la mi-temps. Non seulement l'OL se voit éliminé de la Coupe de France, mais il est en sursis pour l'édition de la saison prochaine. D'autre part, pour tous les matchs encore à jouer à l'extérieur dans la saison en cours, y compris en Ligue 1, l'OL devra se passer de ses supporters. Le parquage visiteur sera fermé. Quant au Paris FC, qui, après les incidents, réclamait des mesures radicales contre la violence, il est également déclaré perdant et il écope notamment d'une suspension de 5 matchs fermes de son terrain, le stade Charletti.
Christophe Jousset pour RFI. Allez, on continue sur le football. Alors avant de passer un tour d'Europe, on va faire un bilan des dauphins du Paris Saint-Germain puisque le PSG domine littéralement le championnat de Ligue 1. Eh bien faisons un point et un tour d'horizon sur les dauphins donc du Paris Saint-Germain avec Naïm Moniol.
Donc le PSG, on l'a dit, leader sans grand enthousiasme. L'avance, elle est surtout comptable. 13 points d'avance sur ses poursuivants Nice et Marseille. Est-ce que ce sont des dauphins dangereux ?
Non, absolument pas. Vous l'avez dit, il y a 13 points d'écart. Il faudrait que Paris perde pendant un mois et demi. Non, non, c'est pas dangereux. Le haut de tableau derrière le PSG est très serré. Que les équipes se suivent, Rennes est en embuscade. Je pense que jusqu'à Lens, qui est à 27 points, 9e à 27 points, les équipes doivent se tenir en 6 points. Donc c'est pas des rivaux dangereux pour le titre. Par contre, ça promet une course à la Ligue des Champions au podium absolument fabuleuse. Les autres surprises, on a Lens. C'est quand même une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1, si ce n'est celle qui joue le mieux, avec notre chouchou bien sûr Fofana, qui aurait pu être Primark et bien Fouet l'année dernière, qui sera peut-être cette année. Il y a Kakuta. Lens, c'est un coach formidable, une équipe qui joue bien.
Et en deuxième partie de tableau, on retrouve notamment Lyon. Qu'est-ce qui coince ? C'est quoi ? C'est le nouveau coach ?
Non, c'est pas le nouveau coach. Ce qui coince à Lyon, c'est je pense que la toute puissance de Jean-Michel Aulas est en train d'atteindre ses limites, voire même les a déjà franchies. C'était l'homme fort du club, c'est devenu l'homme dangereux du club, qui justement empiète un petit peu trop sur la communication, sur l'image, qui a la prétention de vouloir parler un petit peu à tort et à travers sur des sujets qu'il maîtrise pas, notamment les débordements de supporters. Donc je pense que c'est un club qui vit, oui, sa plus mauvaise saison depuis 20 ans. Il faut faire quelque chose parce que on ne peut pas avoir une bonne Ligue 1 et une Ligue 1 compétitive sans un grand Olympique Lyonnais, c'est pas possible.
Et justement, vous l'évoquiez à l'instant, ces débordements en tribune, est-ce qu'ils auront finalement éclipsé les performances sur le terrain au début de saison, tous ces débordements journée après journée ?
Éclipser les performances sur le terrain, non, parce qu'on a vraiment eu un beau championnat cette année, on voit vraiment des belles choses, des belles équipes, des beaux matchs. Par contre, ce que ça confirme, c'est qu'on a des instances dirigeantes, une gouvernance, une ligue absolument faible, inutile. Donc non, ça n'a pas terni l'image du foot parce qu'on a vraiment une belle demi-saison, mais il va falloir faire quelque chose parce que si ça va finir comme à l'époque au PSG, il y aura des morts à côté d'un stade. Et puis ce jour-là, on dira on avait prévenu. Donc il faut absolument faire quelque chose, quitte à fermer les terrains, quitte à mettre une série de points en moins, des grosses amendes, mais faisons quelque chose parce qu'on a la chance d'avoir un championnat qui retrouve des couleurs au moment où le championnat allemand est un peu terne, au moment où le championnat espagnol est devenu très moyen. La France pourrait avoir une carte à jouer en vue de la nouvelle Ligue des Champions, de la nouvelle réforme qui arrive. Et au final, tout ce qu'on est capable de montrer au monde du foot, c'est qu'on a des abrutis dans les tribunes et personne pour les mettre au pas.
Allez, direction maintenant le tour d'horizon du football européen, puisque la France est en trêve hivernale. Direction l'Angleterre, puisque c'est le seul championnat à ne pas s'arrêter pour les fêtes. Retour sur le Boxing Day, un Boxing Day perturbé par le Covid, comme nous l'explique Philippe Auclair et Sarah Loubacouche.
10 matchs sur 30 reportés lors des 3 dernières journées. 3 de plus ce dimanche. Des entraîneurs eux-mêmes touchés par le virus, comme Gérard et Vira, qui sont positifs. Hein. 2 matchs qui devaient se jouer mardi prochain viennent eux aussi d'être reportés. Cette semaine, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, inquiet pour la santé de ses joueurs, évoquait la possibilité d'une grève. Ça aurait été possible pour ce Boxing Day ?
Non, ça aurait pas été possible parce que un mouvement de ce type, d'une part, serait inédit, et d'autre part, il faudrait un consensus, un accord de l'ensemble de la profession, donc des entraîneurs, des joueurs, des clubs, et ça n'est pas le cas. Patrick Vieira, par exemple, on a parlé, le pauvre vieux qui lui aussi était absent pour cause de Covid, mais il a dit non, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Mais malgré tout, ça commence à devenir très préoccupant parce que la situation sanitaire en Angleterre ne s'améliore pas, c'est moins qu'on puisse dire. Ces matchs reportés, comme vous le disiez, s'accumulent de week-end en week-end. Il y a des clubs qui ont joué 19 matchs de championnat, d'autres qui vont terminer ce week-end avec 16. Il va bien falloir les caser quelque part, ces 3 matchs. On a un calendrier dingue avec les demi-finales de la Coupe de la Ligue qui arrivent, la FA Cup qui va commencer, la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, qui va nous intéresser au plus haut point. 6 clubs anglais sur 7 qui sont encore en Europe. Et avec ça, une saison qui est une date butoir pour se terminer, puisque on a la Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce qui signifie, qui est au mois de novembre, au mois de décembre, ce qui signifie qu'on a avancé la saison 2022-23 en Angleterre, qui n'aura jamais commencé aussitôt qu'elle commencera l'année prochaine. Donc, il y a un vrai énorme problème qui est en train de se créer. Et très honnêtement, si vous me demandez quelle est la solution, en ce moment, je n'en ai pas. C'est un casse-tête pour les organisateurs du football anglais.
Allez, direction maintenant le championnat d'Espagne et le bilan de cette première partie de saison avec Sofiane Namanzian et Sarah Loubacouche.
Escale en Espagne où le Real Madrid domine outrageusement le championnat, Sofiane.
Ouais, seul au monde comme les Madrilènes, hein, Sarah Lou, leader incontestable et incontesté, hein, avec 46 points glanés en 19 journées. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont déroulé à l'image de Karim Benzema, auteur de 13 buts et de 7 passes décisives. Mais c'est surtout son duo avec le jeune Brésilien Vinicius Junior qui fait des étincelles, déjà 10 buts pour l'ailier et ses victimes, hein, pas des moindres, le FC Séville ou la Real Sociedad. Notamment.
Derrière, loin derrière le Real, les deux clubs de Séville se partagent le podium.
Et 8 points, c'est ce qui sépare le Real du FC Séville, solide dauphin juste devant son rival le Betis. La surprise de ce début de saison, les coéquipiers du Français Nabil Fekir espèrent décrocher une première qualification pour la Ligue des Champions depuis 2005.
Et du côté des déceptions, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Et
une équipe quasi inchangée, un entraîneur de renom qui a pu compter sur le retour de son joyau Antoine Griezmann cet été. Pourtant, l'Atlético est quelque peu palote, hein, seulement 5e avec 29 points. Les Colchoneros ne sont pas à la hauteur de leur titre, hein, de la saison passée. Du côté du Barça, on s'y attendait, Sarah Lou. Le départ de Lionel Messi a fragilisé le groupe. Ronald Koeman débarqué. C'est la légende Xavi qui a repris le flambeau. Résultat, une 7e place à seulement 2 points du 4e.
Ah, voilà donc pour l'Espagne. Et vous en doutez, maintenant direction l'Italie, puisque c'est le 3e gros championnat européen. Direction l'Italie, donc, avec le bilan, encore une fois, de cette première partie de saison avec Sofiane Namanzian.
Et on prend les mêmes et on recommence. Hein. Le champion en titre, l'Inter, termine la phase aller en tête du classement avec 46 points, 4 unités seulement devant le Milan AC, et c'est Naples qui complète le podium.
Et la Juventus dans tout ça ?
La vieille dame, elle tout saute, hein, Sarah Lou, cette année. Hein. Mais après un début de saison raté, les hommes de Massimiliano Allegri se sont réveillés. La preuve, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La lutte pour la qualification en Ligue des Champions s'annonce d'ores et déjà passionnante en Italie, puisque seulement 6 points séparent l'Atalanta 4e de la Fiorentina 7e.
Voilà donc pour le football pour aujourd'hui. Allez, avant de conclure ce journal des sports, on va parler de rugby. Le championnat de France, le top 14, a été tout simplement interrompu pour le moment pour cause de Covid. Anne Mignard.
3 rencontres devaient avoir lieu ce dimanche, mais le Covid est venu perturber leur organisation. 2 d'entre elles ont été reportées. Brive, Clermont et Toulouse, Stade Français. Une des affiches de la saison. 9 cas ont été détectés au sein de l'effectif du club parisien et la Ligue nationale de rugby n'a pas eu d'autre choix que de reporter le match. Il n'y avait pas d'autre choix possible, estime le président de la Ligue, René Bouscatel.
C'est vraiment un crève-cœur, mais on ne peut pas faire autrement. Et je voudrais que les choses soient claires. Avec le Omicron, on n'en est plus à compter le nombre de cas. Au Stade Français, oui, il y en a 9, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est la cinétique de la pandémie.
C'est-à-dire qu'il y a deux jours, il y en avait un, et ce matin, il y en a neuf. Et tout l'effectif n'avait pas été encore testé. Il y a une progression exponentielle de jour à jour. Donc il y a un véritable danger de faire jouer ces matchs. Le Stade français, comme les autres équipes, seront mis à l'isolement pendant 7 jours. C'est assez catastrophique et dommageable en cette période, mais malheureusement, on ne commande pas la nature. On ne peut que s'incliner.
René Bouscatel au micro de nos confrères de RMC.
Voilà donc pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Noël dans le reste du programme dans quelques instants. À tout de suite.